Conscience entrelacée, karma quantique, gestion cosmique et éthique de l'ascension. L'univers est entrelacé, de la singularité au soi. L'univers n'a pas commencé par la séparation, mais par l'unité. À partir de la singularité primordiale du Big Bang, toutes les particules, l'énergie et l'information ont émergé, se déployant de manière explosive dans l'espace-temps. Comme l'atteste la cosmologie moderne, tout dans l'univers était autrefois un point dense et sans limite de potentiel infini. Bien que l'espace se soit depuis élargi sur des milliards d'années et d'années-lumière, l'intrication quantique établie dans ses premiers instants pourrait perdurer. En physique quantique, les particules intriquées, peu importe leur distance, partagent des corrélations instantanées. Cette non-localité défie les intuitions classiques sur l'espace et la causalité, mais elle a été confirmée à plusieurs reprises par des expériences, par exemple, Aspect, Zeyinger. Il est donc possible de considérer que l'ensemble du cosmos conserve une unité intriquée sous-jacente, une sorte d'écho métaphysique de son origine singulière. Cela ne fournit pas seulement une métaphore pour l'interconnexion, cela pourrait offrir un substrat scientifique aux vérités spirituelles anciennes. Ce que nous faisons aux autres, nous le faisons à nous-mêmes. Chaque pensée ou action a des conséquences. Le soi n'est pas une unité délimitée, mais un nœud dans un tout plus vaste. Physique quantique et le soi non local. La physique moderne a introduit des cadres qui suggèrent un univers bien plus interconnecté et subtil que ne le permettait jamais la mécanique newtonienne. Le principe holographique, Toft, Suskind, suggère que toute l'information dans un volume d'espace peut être codée sur sa frontière. Cela a émergé de la résolution du paradoxe de l'information des trous noirs, Hawking, Bekenstein, et implique que l'information est conservée, même dans des conditions gravitationnelles extrêmes. Si la conscience ou la mémoire transporte de l'information quantique, comme le suppose la théorie Hork-Hor développée par Roger Penrose et Stuart Amroff, alors nos expériences pourraient s'imprimer dans la structure de l'espace-temps, même après la mort. Hork-Hor propose que la cohérence quantique dans les microtubules neuronaux permette à la conscience d'émerger de collapses orchestrées d'états quantiques, un processus sensible à la géométrie de l'espace-temps. Ainsi, la conscience pourrait être un processus fondamental lié à la structure quantique de l'univers, et non un simple sous-produit émergent de la complexité biochimique. Mémoire, identité et esprit distribués. Philosophiquement, ces perspectives scientifiques approfondissent les anciennes questions d'identité. John Locke a soutenu que l'identité personnelle est ancrée dans la continuité de la mémoire. Mais si la mémoire est intriquée non seulement avec les neurones, mais aussi avec le temps, l'espace et les autres, alors l'identité est bien plus distribuée. La monadologie de Leibniz décrit la réalité comme composée d'unités indivisibles, des monades, chacune reflétant l'univers à sa manière. Aujourd'hui, nous pourrions imaginer chaque conscience comme un réflecteur quantique, un nœud intriqué résonnant avec tout ce qu'il a rencontré. Le panpsychisme, qui connaît une résurgence dans la philosophie académique, Goff, Strafson, propose que la conscience est fondamentale et omniprésente, comme la masse ou la charge. Cela fait de la compassion, de la conscience et même de l'action éthique non pas des propriétés émergentes, mais des caractéristiques intrinsèques de la matière elle-même. La conclusion est radicale. Le soi n'est pas confiné au crâne. Nous sommes des phénomènes non locaux, distribués à travers le temps, la mémoire, l'interaction et la matière. Incarnation et intrication écologique. Le philosophe Maurice Merleau-Ponty a soutenu que nous ne sommes pas des esprits dans des corps regardant un monde, mais des êtres du monde, intégrés dans ses textures, ses couleurs et ses rythmes. Cela trouve un soutien dans la cognition incarnée contemporaine, qui démontre que la pensée n'émerge pas seulement du cerveau, mais de l'interaction corporelle et environnementale. Biologiquement, cela a des implications profondes. L'hypothèse Gaïa, Lovelock, Margulis, soutient que la Terre fonctionne comme un organisme unique autorégulé. La vie modifie et stabilise l'atmosphère, les océans et la géologie pour se maintenir. Les réseaux mycorhiziens, des champignons qui relient les racines des arbres, partagent l'eau, les nutriments et les signaux chimiques à travers des forêts entières. Les scientifiques appellent cela le Wood Wide Web. Ces systèmes ressemblent à des réseaux quantiques biologiques, où la vie est entrelacée et interdépendante. Dans l'islam, le Coran décrit toute la nature comme des signes, ayat, chaque partie de la création loue Dieu et reflète l'ordre divin. L'humanité est désignée comme califat, intendant, portant la responsabilité éthique de la création. Dans le bouddhisme, l'origine dépendante, Pratitya Samuppada, enseigne que rien ne surgit indépendamment, chaque être est entrelacé avec les autres. Mort, information et possibilité de persistance. Que se passe-t-il après la mort? La neuroscience classique dit que la conscience cesse, mais la physique quantique et informationnelle suggère des possibilités plus profondes. L'information n'est jamais détruite. C'est un principe maintenu même en physique des trous noirs. Si le soi est partiellement composé d'informations, il pourrait se dissiper, mais pas disparaître. Dans Orc-Or, l'information quantique dans les microtubules pourrait se recoordonner ailleurs après la mort. Bien que non prouvé, cela implique que la conscience n'est pas strictement locale ou terminale. L'islam enseigne que chaque acte est enregistré, et que l'âme continue dans une vie après la mort. Le bouddhisme enseigne le karma, la réverbération de l'action à travers le temps et la renaissance. Si la conscience est intriquée, la mort pourrait ne pas être un effacement, mais une décohérence, une transition vers un autre état au sein du champ total de l'être. Le Tao de Rodney est la crise morale de l'humanité. Dans Stargate Atlantis, l'épisode Le Tao de Rodney offre une métaphore profonde pour notre condition. Rodney McKay est exposé à un dispositif d'ascension ancien. La machine perfectionne sa biologie, cognition améliorée, guérison, télépathie. Il devient surhumain, pourtant, il ne peut pas ascensionner. Pourquoi ? Parce que l'ascension exige non seulement une préparation biologique, mais une reddition spirituelle. Rodney s'accroche à son ego. Il craint la mort. Il valorise son intelligence, mais pas la compassion. À la fin, il frôle la mort, sauvé uniquement par les actions désintéressées de ses amis et son propre acte final d'humilité. Cela reflète notre état actuel. L'humanité a perfectionné ses outils, IA, CRISPR, réacteur à fusion, système de surveillance. Mais elle manque de préparation éthique. La machine est construite, le cœur ne l'est pas. Gaza se dresse comme une accusation. Nous avons utilisé notre science non pas pour guérir, mais pour détruire. La technologie amplifie le vide moral en notre centre. Comme dans l'échec de Rodney, la perfection technologique sans transformation intérieure mène à la perdition. Les anciens et la transcendance éthique. Les anciens dans Stargate offrent une vision d'espoir. Ils ont réussi là où Rodney et l'humanité échouent. Ils ont évolué au-delà de la forme physique, non par accident ou invention, mais par la discipline spirituelle et la sagesse éthique. Ils sont devenus des êtres d'énergie pure, existant dans un état supérieur. Ils ont laissé derrière eux les armes, l'ego et même l'individualité pour fusionner avec le champ universel. Leur leçon, la technologie peut préparer le corps, mais pas l'âme. Cela reflète l'ascension bouddhiste et le mirage islamique, élévation spirituelle, où l'union avec le divin ou l'universel exige l'humilité, la discipline et la reddition, pas la conquête ni l'intelligence. Lucie, lâcher prise dans la lumière. Dans Lucie, 2014, la capacité cérébrale de la protagoniste augmente jusqu'à ce qu'elle ne s'identifie plus comme humaine. Elle transcende le temps et l'espace, devenant finalement une avec l'univers. Son acte final n'est pas de dominer, mais de se dissoudre dans le champ, laissant derrière elle un message simple. Je suis partout. Le voyage de Lucie est l'opposé du pouvoir technocratique. C'est la dissolution de l'ego dans l'unité, une expression cinématographique du nirvana bouddhiste ou du fana soufi, auto-annihilation en Dieu. Elle laisse derrière elle la connaissance, pas les armes. La présence, pas la domination. Karma comme rétroaction quantique. Si tout est intriqué, alors le karma devient une rétroaction physique, pas du mysticisme, mais de la résonance. Chaque pensée, action ou intention modifie le champ quantique dont nous faisons tous partie. Tout comme les ondes gravitationnelles ondulent à travers l'espace-temps, les actions morales résonnent à travers la structure de l'être. L'islam enseigne que même le poids d'un atome est enregistré. Le bouddhisme enseigne que l'intention façonne la réalité à travers les vies. La théorie quantique enseigne que les observateurs influencent les résultats et que toutes les actions laissent des traces. Ainsi, le karma est la conservation de l'information éthique. Un meurtre à Gaza résonne dans le cœur de l'univers. Il en va de même pour un acte de miséricorde. Rien n'est perdu. Évolution post-biologique et citoyenneté cosmique. Nous avons atteint la fin de l'utilité de l'évolution biologique. La sélection naturelle nous a menés loin, mais elle ne peut pas nous préparer au pouvoir que nous détenons désormais. IA, nanotechnologie, géo-ingénierie, colonisation spatiale, ceci exige une évolution éthique, pas seulement une sophistication cognitive. La prochaine étape n'est pas physique, mais morale. Nous devons devenir des citoyens cosmiques, alignés sur l'harmonie plus profonde du champ. Cela signifie la compassion plutôt que la domination, la gestion plutôt que l'extraction, la méditation plutôt que la manipulation, et la reddition plutôt que le contrôle. Nous ne pouvons plus nous permettre le mythe que la technologie nous sauvera. Seule la conscience le peut. Conclusion. L'humanité à la croisée des chemins. L'humanité se trouve maintenant à un carrefour. La même technologie qui pourrait nous mener au salut peut aussi nous mener à la damnation. Les Krell dans le film Forbidden Planet étaient une civilisation d'une intelligence suprême et d'accomplissement technologique, mais ils furent anéantis en une seule nuit par les monstres de leur intérieur, le Ça, comme l'appelait Sigmund Freud. Comme eux, notre technologie détient un grand pouvoir, mais en regardant Gaza, il est clair que nos dirigeants manquent manifestement de la maturité spirituelle pour manier ce pouvoir de manière responsable, nous mettant sur la voie de la damnation. Cet essai est un dernier appel désespéré. Embrasser la compassion plutôt que la domination, et écarter ces sauvages des leviers du pouvoir avant qu'il ne soit trop tard. Prenons les anciens de Stargate comme modèle et efforçons-nous d'améliorer nous-mêmes en cultivant l'humilité, la sagesse et la compassion, en nous élevant au-dessus de nos égos au lieu de nous accrocher à nos instincts bas qui nous ordonnent d'adorer la richesse et le pouvoir,